Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à ceux que je n'ai pas encore salués. Bonjour à ceux qui sont là pour la première fois et qui nous visitent. Voilà, donc nous bénissons le Seigneur pour ce moment de culte, ce moment de louange. Et comme prévu, nous allons continuer l'enseignement qu'on a commencé la semaine passée. Je vais essayer d'aller un peu plus vite pour ne pas que ça dure comme les contributions. Mais voilà, comme ça, on avance. Et donc, pour rappel, je vais juste rappeler pour les personnes qui n'étaient pas là ou qui ont oublié qu'on a commencé un enseignement sur l'examen de certains principes bibliques pour une église qui porte du fruit. Une église qui est pleine de vie, parce qu'une église c'est un lieu de vie, c'est un lieu où l'on vit, c'est un lieu où la présence de Dieu est, où l'Esprit de Dieu agit, mais aussi un lieu qui est appelé à porter du fruit, c'est-à-dire où il est censé y avoir une production spirituelle, on est censé voir année après année. Problème, 2018 des mêmes problèmes, 2010, ou alors où on voit qu'année après année, ben finalement, on ne porte pas de fruits, on n'avance pas, on ne grandit pas, on ne foisonne pas. Et donc, c'est pour ça que nous allons continuer cet enseignement. Donc, je vais faire simplement quelques rappels pendant quelques secondes et ensuite, on avancera dans ce que nous avons à voir aujourd'hui. Donc, pour rappel, la dernière fois, on s'était arrêté sur le principe selon lequel, dans l'Église, tout le monde a une place et une responsabilité. D'accord ? Et j'avais utilisé l'expression ou l'exemple de l'éminent Gino, hein, qui avait trouvé cette image, hein, qu'on ne trouve dans aucun livre, aucun dictionnaire, hein, c'est que l'Église, c'est pas 4 personnes ou 5 personnes qui jouent sur le terrain et tous les autres qui regardent. Voilà. Donc l'Église, c'est tout le monde qui est en œuvre, c'est tout le monde qui est en action, c'est tout le monde qui a sa part, et donc la croissance de l'Église est la responsabilité de chacun. Si certains se déresponsabilisent de la croissance de l'Église, eh bien, quelque part, ça a pour effet de la freiner. Ce n'est que quand tout le monde prend conscience qu'il a sa part, qu'il a sa responsabilité, qu'il a le prix à payer, les choses à investir, que l'Église avance. Et donc, le sacerdoce universel se rattache aussi à cette idée que nous sommes tous sacrificateurs, c'est-à-dire que nous avons tous accès auprès de Dieu, que nous avons tous aussi reçu des dons que nous sommes appelés à utiliser pour la gloire de Dieu, avec cette expression, chaque membre, dans une église en bonne santé, chaque membre, conscient de sa responsabilité, est appelé à mettre au service des autres les dons qu'il a reçus du Seigneur, qui est le seul chef de l'église, dans le but de contribuer à glorifier et à adorer le Seigneur, ainsi que pour édifier la communauté, donc pour que la communauté, donc pour qu'en interne nous soyons édifiés, que nous avancions dans la foi, que nous avancions dans la connaissance de Dieu, mais aussi pour rendre témoignage au monde. Donc il y a ces deux grands aspects, on sert et on met nos dons au service pour l'édification de l'Église en interne, pour que les croyants dans l'Église grandissent, avancent, mais aussi pour que l'Église joue son rôle de rendre témoignage au monde. Puisque l'Église est un lieu qui est en même temps un lieu qui a une vie interne, mais l'Église est appelée à être tournée vers le monde. Donc l'Église, ce n'est pas un truc refermé, quelque chose où on est entre nous, on se plaît, on est tourné vers le monde. On a une mission vers le monde pour la connaissance de Jésus-Christ. Et donc, on avait dit que c'était donc important que dans l'Église, chaque membre joue son rôle, que chacun ait sa fonction. Nous avions dit que dans l'Église, tout le monde est important et tout le monde est indispensable. Puisque dans une voiture, si vous retirez parfois un petit morceau, il n'y a plus rien qui marche. Et parfois, on pourrait croire que le plus important, c'est le volant. Oui, mais le volant, s'il n'y a pas tel élément du moteur, ou s'il n'y a pas, ça ne sert à rien. D'accord ? Et donc, c'est ça dans l'Église. Et donc, il n'y a pas de crainte à dire que, ben oui, dans l'Église, il y a des gens qui font des trucs très voyants. On ne peut pas les rater. Ils sont pénibles en plus, ils ressemblent à rien, mais ils prennent toute la place le dimanche, mais voilà, ok, c'est quelque chose de très visible. D'autres font des choses qu'on ne voit pas. Il y a des gens qui font des choses dans l'église, on ne le sait pas. Il y a peut-être des gens qui consacrent des nuits entières à prier pour l'église. Parce qu'ils savent que c'est leur appel d'intercéder pour l'église, on ne le saura jamais. Mais en même temps, ils sont indispensables, parce que s'il n'y a pas des gens qui prient, il n'y a rien qui marche. D'accord ? Donc, tout le monde est indispensable. Nous sommes tous égaux en valeur. D'accord ? Donc, nous sommes tous enfants devant un père. Mais nous n'avons pas des fonctions, nous avons des fonctions différentes, et donc nous avons à jouer des rôles différents, à prendre des positions différentes, à avoir des responsabilités différentes. Et donc on avait dit que tout le monde a quelque chose à faire dans l'Église, mais en même temps, chacun doit être à sa place. Parce que si tout le monde est à la place de tout le monde, c'est un problème, et il ne faut pas cacher que c'est souvent ce qui pose souci, c'est cette confusion des rôles. C'est quand on ne veut pas rester dans sa place et qu'on empiète sur le travail des autres, quand parfois on ne connaît pas son travail et qu'on le laisse délaisser, donc on a quelque chose à faire et on fait autre chose, ou alors quand on rentre dans des choses pour lesquelles on n'est pas appelé. Vous savez que dans l'Ancien Testament, vous connaissez, un jour je parlerai de ça en détail, vous savez que dans l'Ancien Testament, si vous n'êtes pas sacrificateur et que vous offrez un sacrifice, vous êtes mort, hein? Si vous êtes pas, c'est comme vous vous rappelez l'histoire de l'arche de l'alliance. Bon voilà, il y a des gens qui sont appelés à porter l'arche. C'est eux. Point. Et c'est dans tous les domaines, hein, il n'y a pas que. Et donc il s'agit que ce soit les bonnes personnes qui portent l'arche. Sinon on se met tous en danger et sinon on est tous conduits à être un corps en mauvaise santé. D'accord ? Et je dirai ça plus tard. Donc les bonnes personnes au bon endroit pour la bonne tâche. Et ça c'est dans tous les services. D'accord. Donc on avait aussi dit, et je rappelle rapidement, que l'Église a une grande mission, une mission qui est irremplaçable. Personne dans la société ne joue le rôle de l'Église. Personne n'a la mission d'annoncer Jésus. Premièrement, l'Église est appelée à être un lieu source d'évangélisation, source d'annonce de l'Évangile. C'est à partir des églises locales que l'Évangile doit se répandre dans le monde. On avait dit que c'est un lieu où Dieu est glorifié et où sa gloire se manifeste. C'est le lieu de la présence de Dieu. Donc on a rappelé le passage, nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. L'Église est l'habitation de Dieu. C'est là que Dieu réside. C'était tantôt, tu habites nos louanges. Dieu habite l'Église. Dieu certainement veille sur la planète entière, mais Dieu n'habite pas la RTBF. Dieu habite l'Église, il y habite son corps. Et donc c'est important qu'on prenne conscience de notre responsabilité dans la société. L'Église a aussi pour mission d'enseigner, de former, d'équiper, d'accompagner les disciples de Jésus. C'est très important. Hein? Comment est-ce qu'on devient un chrétien mature? Ben, dans l'Église. Comment est-ce qu'on apprend à prier? Dans l'Église. On apprend à témoigner? Dans l'Église. On apprend à vivre selon la parole de Dieu? Dans l'Église. C'est là qu'on est formé. C'est un lieu de prière et c'est aussi un lieu où les Saintes Écritures font autorité. C'est le seul lieu où les Saintes Écritures font autorité. Alors là, c'est ce qu'on n'a pas vu. Par rapport aux missions de l'Église qu'on vient de voir, là juste avant, donc l'annonce de l'Évangile, formation, prière, gloire de Dieu, etc. Par rapport à cela, toute l'Église doit s'orienter vers la mission. Donc en fait, toute l'Église... Tous les aspects de l'Église doivent être tournés vers la même mission, le même objectif. D'accord ? Alors, quand on dit ça, on peut le faire de façon très simple, parce que c'est des principes qui ne sont pas centrés sur l'Église. D'ailleurs, même quand on parle dans la société, on dit le corps de police, on dit le corps des pompiers. Mais par exemple, les pompiers, ils ont une mission de sauver les personnes, de porter assistance, etc., etc. Eh bien, la personne qui ne va jamais sur le terrain et qui s'amuse juste à régler le matériel, d'accord, qui s'amuse à faire en sorte que les lances soient bien, voilà, elle est indispensable et elle doit, dans son travail, penser à la mission. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. D'accord, je ne suis pas directement en contact avec la mission, mais je dois ne pas oublier que ma place contribue à ça, d'accord. Et donc, c'est comme dans l'armée. Il y a des gens qui sont moins vaillants dans l'armée, mais effectivement, pour que l'armée puisse jouer son rôle, il faut que tout le monde garde à l'esprit cela. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que si jamais dans l'Église, des gens servent sans savoir que c'est ça l'objectif, parfois, en fait, ils construisent une voie parallèle et ça ne colle pas avec comment l'Église avance et qu'est-ce qu'elle doit faire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est important que tout le monde garde ça à l'esprit. Hein ? Et ça nous aide aussi à ne pas faire une grosse marmelade ecclésiale. hein, où on est toujours pris par de l'interne, des choses internes, et on oublie pourquoi on est là. Attention à ça, c'est très dangereux. Hein? Et donc, c'est, et le diable utilise ça pour nous distraire. Hein? Donc, pendant qu'on est distrait dans des choses internes, eh bien, on oublie qu'on a une mission, on oublie qu'on a des choses à faire. Et donc, on doit toujours, tous, ne pas oublier, mon rôle sert à ça. Je suis dans tel service, voilà à quoi je sers. Voilà. Donc, par exemple, je donne un exemple, Eric est à l'accueil, eh bien, ça fait partie de cette mission. Et quand il sert dans l'accueil, il doit penser à la mission générale de l'Église. Voilà, et on dit, voilà, on doit annoncer l'Évangile, donc il faut que la personne qui rentre soit bien accueillie, on veut entendre la parole de Dieu, donc il faut qu'il y ait du calme, il faut... Voilà, donc tout ça. Et donc, chacun joue son rôle par rapport à ça, et donc, par rapport à cette image, on pourrait dire que, voilà, tous les petits points qui sont là, tous les ministères, tous les services sont orientés vers la mission, et toute personne qui sert doit être au courant de pourquoi on est là et de qu'est-ce qu'on fait, et ça réglerait beaucoup de problèmes aussi. Donc toutes les actions et les orientations doivent aller vers ces objectifs, qui sont les objectifs que Dieu assigne à l'Église. D'accord ? Donc on pourrait le mettre aussi d'une autre façon, ministère 1, ministère 2, mais tous orientés vers la mission. Autre principe, on a vu la dernière fois le principe de l'implication globale, c'est-à-dire le principe qui veut que toute l'Église soit impliquée dans la mission. Deuxième principe, c'est le principe de la spécialisation. Donc chacun se spécialise et s'implique dans son domaine. C'est un autre principe qui nous est enseigné par les Écritures. En d'autres termes, nous ne sommes pas appelés à être des hommes à tout faire, à être des personnes polyvalentes qui font de tout, qui sont partout en même temps. Nous sommes appelés chacun à être dans notre rôle, dans notre fonction, et à nous spécialiser là-dedans. Donc se spécialiser, ça veut dire se concentrer là-dedans pour devenir de plus en plus efficace. Hein, efficace, on met des guillemets, mais quand on est dans le sens apporter du fruit dans ce qu'on fait. Alors le verset qu'on connaît bien, 1 Corinthiens 12, 7 à 11, Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre. Donc à chaque personne, Dieu donne quelque chose de différent. Et donc on dit, Dieu ne donne pas la même chose à chacun pour le service dans l'Église. Nous n'avons pas tous la même chose. Et donc c'est en fonction de ce que Dieu nous a donné que nous devons nous spécialiser pour être dans la chose que Dieu nous a donnée. D'accord ? Et donc évidemment, c'est le premier travail que d'être conscient sur, mais finalement, qu'est-ce que Dieu m'a donné à moi ? Et qu'est-ce que je dois apporter ici ? Est-ce que je suis juste là pour chauffer les chaises ? Ou est-ce que Dieu me donne quelque chose pour apporter quelque chose aux autres, à la communauté tout entière? Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier, comme il veut. Donc Dieu distribue les dons comme il veut, et nous n'avons pas de pouvoir là-dessus. Donc chacun a quelque chose de particulier. Et la Bible nous appelle à nous attacher à notre ministère. C'est une expression forte qu'on lit dans ce verset, qui est de Romains 12, 6 à 8. Puisque nous avons des dons différents, d'accord, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Que celui qui est attaché au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. Cette expression du verset 7 est intéressante, s'attache. Nous devons tous nous attacher à notre ministère. C'est ça se spécialiser. Je m'attache à mon rôle, je m'attache à ma fonction. D'accord ? Et il y a plein de choses que je ne fais pas. D'accord ? On doit s'attacher à quelque chose de particulier de notre service, et on doit se concentrer là-dessus et pas sur autre chose. D'accord ? Donc vous vous souvenez, acte 6, dans le texte avec les apôtres, disent, et là, nous on ne va pas délaisser la parole de Dieu et la prière pour s'occuper des tables. Hein? Aujourd'hui, quand on dit ça, nous, on dit, mais ils sont orgueilleux, mais pour qui ils se prennent, mais c'est pas ça. On doit s'attacher à notre service. D'accord ? Donc il y a des choses pour lesquelles on doit, voilà, moi il y a des journées de travaux où je ne viens pas. Pas parce que je suis plus important que les autres, mais parce que j'ai un autre travail à faire. Et donc, pendant ce temps-là, je me consacre à autre chose. Voilà. Et donc, c'est ça dans l'Église. Chacun se spécialise. Chacun a quelque chose à faire et quelqu'un se concentre sur ce qu'il a à faire. Parce que sinon, nous devenons tous des spécialistes de tout, nous faisons un peu de tout, et puis finalement, mais les gens qui doivent faire ce qu'ils ont à faire ne sont plus... Voilà. Donc, si on dit aux musiciens de venir chaque semaine nettoyer la salle, mais ils vont pas répéter leurs chants. Or, leur job à eux, c'est de répéter les chants. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça marche. Et on doit entrer dans cette mentalité-là de s'attacher à notre ministère. D'accord ? Sinon, à un moment donné, ça devient un peu... Voilà, vous avez compris. Il y a diversité dans l'Église. C'est beau, cette image, quand même. C'est beau. C'est beau et c'est vous. Ça vous représente, ça. Vous êtes là et c'est... Voilà. Ça n'a pas l'air de vous réjouir plus que ça, mais... Voilà, c'est... Donc il y a une diversité, il y a une multitude dans l'Église de choses, de profils différents, de choses à faire différentes. Diversité, ça veut dire multitude. Et Dieu donne un package par personne. En d'autres termes, chacun reçoit quelque chose de spécial. Et il y a autant de profils différents qu'il y a de personnes. C'est pour ça que cette histoire de... Enfin, soit. Bon, donc, il y a autant de profils qu'il y a de personnes. Et parce qu'il y a diversité, il y a spécialité. D'accord ? Donc, je ne sais pas si c'est ici que j'avais donné cet exemple. Dans cette salle, tout le monde a une spécialité que personne d'autre n'a. En d'autres termes, nous sommes tous spécialistes de quelque chose dans lequel personne d'autre n'est aussi spécialiste que nous. D'accord ? Donc, premier nouveau, on peut prendre les métiers. D'accord ? Ben, si vous êtes le seul comptable de l'Église, vous êtes la personne la plus compétente dans la comptabilité. Il n'y a personne qui en connaît mieux que vous là-dessus. Si vous êtes le seul juriste de l'Église, ben, vous êtes la personne qui en connaît le plus en droit. Personne n'en sait plus que vous. Okay ? Si vous êtes le seul maçon de l'Église, personne ne connaît plus la maçonnerie que vous. Ça, c'est dans les métiers. Mais si on prend d'autres niveaux, on peut dire aussi, si vous êtes... couturière et qu'il n'y a pas d'autres couturières dans l'Église, vous êtes la meilleure, vous êtes la plus spécialiste de la couture. Si vous êtes une bonne cuisinière, une personne qui cuisine bien, vous êtes peut-être plusieurs à bien cuisiner, mais il y a certaines recettes qui en a qu'une qui sait mieux faire que toutes les autres. Elle est vraiment spécialisée de comment on l'a fait. Voilà. Par exemple, Eric, lui, c'est la bolognaise. Il paraît que sa bolognaise est connue dans le monde entier et que personne ne peut y résister. Voilà. Faut inviter maintenant, Eric. Mais attention, avec le Covid, faut faire attention, donc pas tout de suite. Mais voilà, donc voyez l'idée. Mais c'est très important, vous savez. Moi, je n'ai pas peur de dire, il y a des sujets où je connais rien. Voilà. Quand on est à la réunion d'assemblée, elle n'est pas là. Et que Rose parle des finances et tout ça, je fais semblant que je comprends alors que je ne comprends rien. Donc, elle donne les feuilles, elle donne le truc avec les comptes et tout ça, alors je me mets bien comme ça, et je regarde les feuilles, et quand elle explique, je fais comme si je suis, mais je n'y connais rien, je ne comprends rien en finance. Je ne maîtrise rien. D'accord ? Mais chacun a son truc. Okay ? Et c'est parce que chacun a son truc que chacun participe d'une façon particulière à l'Église. Et donc c'est important de connaître son truc et de s'investir. Il y a diversité dans l'Église et interdépendance. Diversité dans l'Église, il y a diversité de dons, de manifestations, de ministères aussi. Et parce qu'il y a diversité, il y a aussi interdépendance. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire tout seul. Donc si on considère qu'il y a dans l'Église un spécialiste des travaux, quelqu'un qui maîtrise bien ces questions-là, eh bien, ce spécialiste des travaux ne peut pas faire sans la personne qui s'occupe des finances, mais la personne qui fait les finances ne sait pas faire sans la personne qui s'occupe des travaux, tout comme la personne qui préside les cultes ne sait pas faire sans celui qui s'occupe des travaux. Tout le monde dépend de tout le monde. Et donc, la dépendance de chacun des membres de l'Église aux autres membres de l'Église, de telle sorte que personne ne peut dire à l'autre « je n'ai pas besoin de toi ». Il n'y a personne qui peut dire ça à quelqu'un d'autre. « Je n'ai pas besoin de toi, tu ne sers à rien, quoique ». Bon, on ne doit pas dire ça, mais c'est vrai que parfois, quand il y a des trous, parfois Dieu donne à d'autres les dons nécessaires pour remplir les trous. D'accord ? Donc si vous avez un don particulier dans l'Église et que vous ne le mettez pas au service, il y a un trou. D'accord ? Et il faut bien que quelqu'un remplisse ce trou. Et parfois, ça va être que Dieu donne à quelqu'un d'autre le don nécessaire pour remplir le trou et pour pouvoir faire le service. Donc, on a tous besoin, on doit tous être à l'œuvre et on doit tous se questionner. Tout chrétien doit s'intéresser à la bonne santé de son église locale. Tout chrétien doit se dire, mais est-ce que mon église locale est en bonne santé et est-ce qu'elle joue son rôle ? Ça, vous savez que ça devrait faire partie de notre vie spirituelle principale. Je connaissais un frère, on se rencontrait tous les matins, et tous les matins au déjeuner, il priait pour les responsables de l'église. Alors, je ne vous dis pas de faire ça, parce que sinon, voilà. Mais c'est pour dire que, si vous voulez, la santé de son église était quelque chose d'important dans sa vie en général. Parce qu'il savait qu'il était membre et que Dieu l'avait mis là et qu'il fallait que son église joue son rôle. Hein, donc c'était pas le dimanche. Il y a quelque chose de... Voilà, ok. Interdépendance. Il a donc plusieurs membres, un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien, voilà. Bon. Nous devons donc être à notre place et respecter la place des autres. C'est-à-dire accepter et mettre en œuvre les dons que j'ai reçus et accepter les dons de l'autre. Ce qui n'est pas toujours facile. On doit aussi pouvoir dire, et parfois c'est beaucoup plus pernicieux qu'on ne le croit, on doit accepter aussi que l'autre, il sait ça mieux que moi. Et que donc, dans son domaine, je dois le respecter dans ce qu'il sait mieux que moi. D'accord. Il est donc important pour chacun d'entre nous de connaître la spécialité que Dieu veut nous donner dans le corps. Hein? Vous êtes quoi ? Vous êtes un ORL ? Vous êtes un médecin du sport ? Vous êtes un gynécologue ? Vous êtes... Voilà. Tu es quoi toi, Marc ? Donc chacun va connaître sa spécialité dans le corps. Donc, tout comme en médecine, il y a des spécialités pour chacun. Chaque médecin a sa spécialité. Eh bien, nous devons aussi tous connaître notre spécialité. Voilà. Et donc, vous voyez bien qu'en médecine, les médecins, ils ne sont pas gênés. Hein. Quand un ORL vous dit, ah ben, allez plutôt chez un endocrinologue, il n'est pas gêné de dire, ah oui, mais bon, pourquoi ? C'est ça. Donc, on ne doit pas être gêné de dire, écoute, ça, demande à un tel, il sait mieux. Voilà. Nous devons donc nous investir dans ce domaine en harmonie avec les autres parties du corps. Je vais beaucoup parler de l'harmonie avec les autres parties du corps. Et nous devons nous spécialiser dans notre domaine pour être de plus en plus utiles à l'Église. D'accord ? Donc il faut devenir expert dans son domaine de plus en plus, parce que plus on est expert, plus on sert aux autres. Et donc, la personne qui s'occupe... La personne qui s'occupe de quelque chose, la personne qui s'occupe de l'électricité, la personne qui s'occupe de n'importe quoi, hein, doit se spécialiser de telle sorte à toujours mieux savoir comment je peux aider les autres et comment je peux être utile à mon église locale. Mettre au service les dons reçus, on en a parlé, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et le verset qui suit, « Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. » Ce verset est intéressant parce qu'il met en lien en même temps une doxologie et la question du ministère. Ce que je veux dire, c'est que, vous voyez la fin du verset, « Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent, voilà, voilà. » Ça, c'est une doxologie, c'est un morceau de doxologie. Et bizarrement, cette doxologie, c'est-à-dire une hymne à la gloire de Dieu, une proclamation de la gloire de Dieu. Et l'apôtre met ça directement en lien avec le ministère. En d'autres termes, la façon dont nous exerçons notre ministère est de nature à glorifier Dieu. D'accord ? Donc si quelqu'un fait bien son ministère, si quelqu'un fait bien son travail, avec la force que Dieu lui donne, eh bien, Dieu est glorifié, Jésus-Christ est glorifié, à lui à qui appartiennent la gloire, la puissance au siècle des siècles. C'est très important que nous comprenions aussi que Dieu se glorifie au travers de notre engagement, au travers de notre service. Principe suivant, je vais juste faire celui-là aujourd'hui encore. Donc on a vu le principe de la spécialisation. Maintenant, le principe de la coordination. Voilà. Donc on a dit que chacun doit servir en bonne harmonie avec les autres. D'accord ? Et donc, voilà encore de beaux bonhommes. C'est toujours vous. Et vous voyez qu'il y a des liens entre les personnes. D'accord ? Donc, il faut une bonne coordination pour la mission. D'accord ? À l'armée, tout le monde doit être dans la même idée. Quand on va en mission, on va tous dans la même idée. D'accord ? Et c'est pour ça que c'est un fonctionnement hiérarchique aussi, l'armée. Parce que si tout le monde commence à faire à sa tête, eh bien, à un moment donné, l'ennemi est vaincu. L'ennemi nous vainc, plutôt. Surtout quand, à un moment donné, nous commençons à nous battre entre nous. Voilà, donc ça affaiblit le corps. Et donc, il faut une bonne coordination. La Bible nous parle de cette coordination dans plusieurs versets. En Éphésiens 2, 21, il nous est dit « En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » Donc tout l'édifice, toute l'église, bien coordonnée. Donc c'est pas tout l'édifice brique-broc, non. Bien coordonné. Éphésiens 4, 16, « C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, et formant un solide assemblage, tire son accroissement, selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. » On pourrait parler des heures de ce verset tellement il est dense. Mais on retient aujourd'hui que c'est de lui que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement. Donc le corps doit grandir, doit avancer, mais il doit le faire avec une bonne coordination qui permet que l'Église soit un bon assemblage. Quelque chose de solide. Quelque chose de ferme. L'édifice doit être bien coordonné, formant un solide assemblage. Donc l'Église doit avoir un fonctionnement coordonné. D'accord ? L'Église, il faut donc des liens entre les services, des articulations entre les ministères. Et pour le dire plus concrètement, ça ne peut pas être chacun dans son coin, mais tout doit être bien coordonné. Donc ce n'est pas chacun qui fait son église dans l'église, c'est chacun qui participe au fonctionnement de l'église en harmonie avec les autres. Et donc il faut s'inquiéter de ça. Il faut s'inquiéter de ça. Parce qu'en réalité, l'interdépendance veut que ce que l'un fait a des implications sur ce que l'autre fait. D'accord ? Je vais donner un exemple ridicule, mais dans une église, il y avait des gens qui servaient. Je vais donner un exemple, ça pourrait être les gens de la louange ou les gens de l'école du dimanche ou les gens de l'accueil. Ils venaient, ils faisaient leur ministère et ils travaillaient. Et ensuite, quand ils partaient, ils fermaient le verrou à l'intérieur de la porte. Donc il y avait deux entrées et ils sortaient par une partie et ils fermaient le verrou de la porte. D'accord ? La porte principale. Et ils sortaient de l'autre côté. Et donc le samedi, quand les gens arrivaient pour nettoyer, eux qui n'avaient pas la clé de l'autre côté, ils ne savaient pas rentrer. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la moindre chose que l'un fait a des implications sur ce que l'autre fait. D'accord ? Maintenant, si l'enseignement dure une heure et demie, à l'école du dimanche, ils vont être là avec les enfants, ils ont fini, et qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Donc ça veut dire que ce qui est en train de se faire ici, ça a une implication sur l'autre. Celui qui préside le culte, s'il préside jusqu'à 11h30, celui qui prêche, il dit, ben oui, mais bon, moi, comment est-ce que je vais faire? Voilà. Donc ça veut dire que tout le monde a une implication. Donc dans des choses très concrètes, la façon dont on ferme les portes, dans des choses plus spirituelles, c'est aussi un impact. Et donc, ça veut dire qu'on doit s'intéresser aux autres qui servent avec nous, communiquer pour que tout puisse se passer correctement. Un autre verset aussi, Colossiens 2, 19, mais donc voilà, donc, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé, par des jointures et des liens, tire son accroissement que Dieu donne. Par des jointures et des liens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est comme dans notre corps, il y a une coordination de nos membres. Quand nous voulons faire un pas en avant, eh bien, tous nos membres se mettent en œuvre vers le même corps. Il y a des articulations, il y a des nerfs qui font le lien avec tout. D'accord ? Et donc, il faut aussi que dans l'Église, il y ait des jointures, des ligaments entre chacun, qui permettent la bonne coordination, la bonne compréhension. Ah bon, alors le conseil d'ancien va dire, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, l'école du dimanche, voilà ce qui se passe, d'accord. Ah mais oui, mais il y a l'évangélisation qui fait ça. Ah mais l'accueil, ah oui, mais les diacres, ah oui. Et donc on met les gens en lien, on fait le lien entre les gens pour un fonctionnement harmonieux. Une bonne organisation permet une pleine exploitation du potentiel et des capacités présentes. On n'imagine pas avec une mauvaise organisation tout ce qu'on perd comme fruit spirituel. Justement, parce qu'on se décentre de notre mission et qu'on perd des occasions d'évangéliser, d'enseigner la parole de Dieu, de louer Dieu, de prier, de jeûner. On perd plein d'occasions. Parce qu'on est occupé à gérer des questions d'organisation interne. On est occupé à faire de la petite cuisine interne pendant que Dieu nous appelle à faire des choses pour sa gloire. Et donc c'est pour ça qu'il faut aussi une bonne coordination. Ça permet aussi, oui, une bonne entente dans le service, éviter les disputes, éviter les doublons, éviter les incompréhensions. Ça permet aussi un bon équilibre pour ceux qui servent entre leur vie personnelle, familiale et leur engagement dans l'Église. Les gens qui servent dans l'Église sont des gens qui ont aussi une vie. Vous avez une vie, non? Donc, vous avez une vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une maison, vous avez des enfants, vous avez une voiture, vous avez un travail, vous avez des activités, vous avez des amis aussi. Vous avez plein de choses. D'accord? Et donc, quand l'Église est mal organisée, ce qui se passe, c'est que les gens qui servent dans l'Église, ben, ils sont tout déséquilibrés parce qu'ils s'investissent, mais ça n'avance pas. Et donc, ça ne leur permet pas d'avoir un bon équilibre entre toutes les parties de leur vie. Une bonne organisation, c'est aussi une bonne circulation de l'information. C'est une capacité à s'adapter. Alors, je rappelle ici que notre Église est une Église organisée. Il y a un tableau au fond de la salle qui reprend une organisation de l'Église locale. Personne n'est au courant que ce tableau est là. si, mais Anthony, oui. mais vous tous, non. Donc, ça veut dire que notre Église a une organisation. Notre Église a un règlement d'ordre intérieur. Notre Église a une organisation des ministères. Donc, j'ai repris ici un exemple. Alors, par exemple, c'est de 2018, hein, donc on peut l'actualiser, on peut le changer avec le temps. Mais il est toujours affiché. Par exemple, notre Église a des responsables qui sont censés superviser les services. Donc, par exemple, moi, Benoît, pour les Codim, ben, c'est pas lui qui donne les leçons. D'accord? C'est un rôle de supervision. C'est un rôle de coordination. D'accord? Donc là, Jean-Pierre donne les leçons des ados, mais si c'était pas lui, il serait responsable au niveau du conseil d'anciens, ce serait la personne qui s'occupe de superviser cette partie-là. Hein? Donc, je ne vais pas passer des heures là-dessus, mais vous voyez, l'aide sociale, Gino, Jean-Pierre. Voilà. Donc, il y a une organisation dans notre Église. Vous ne le saviez pas, hein? Vous croyez qu'on venait comme ça et qu'on moulinait à gauche, à droite? Non! Voilà. On veille, on essaye d'organiser le service. Voilà. Donc, une bonne coordination nécessite aussi une centralisation de la coordination. Donc c'est pour ça que dans le tableau-là, on avait mis des anciens pour superviser les différents morceaux, pour qu'il y ait une centralisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le conseil d'anciens doit savoir ce qui se passe dans l'Église. Il doit savoir ce qui se passe à l'école du dimanche. Il doit savoir ce qui se passe à l'évangélisation. Il doit savoir ce qui se passe à la louange. Il doit savoir ce qui se passe à l'accueil. Et c'est qu'en sachant ce qui se passe qu'il peut coordonner le service. D'accord? Et quand on ne sait pas coordonner le service. Voilà. Et ça permet que chacun joue son rôle, chacun soit à sa place, et que tout soit bien coordonné. Et c'est quelque chose de très important. Et en réalité, une fois qu'on comprend ça, on se rend compte que ça ne sert pas l'orgueil de quelqu'un, mais ça sert le bon fonctionnement de l'Église. Un fonctionnement harmonieux. J'avais parlé de la différence entre les dons des ministères, des charges. Je ne vais pas passer du temps là-dessus, mais je rappelle encore qu'un don et un ministère, ce n'est pas la même chose. Donc un don, c'est un don qu'on reçoit. Par exemple, un don d'encouragement. Ça, c'est un don qu'on a. Un ministère, c'est autre chose. Donc le ministère exige d'autres choses. Un ministère exige une reconnaissance dans l'Église. Un ministère a des conditions de caractère. Il y a tout un ensemble de choses qui s'attachent à exercer un ministère. C'est très important de comprendre la différence entre les deux. Tout le monde a des dons. D'accord? Mais le ministère doit être encadré dans l'Église locale aussi. Donc, c'est très important. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus parce que, voilà. Je vais peut-être finir par là. Je vais finir par ici. En parlant, justement, de la différence entre des dons spirituels. Donc, le Saint-Esprit accorde à tous les membres du corps, à tous les chrétiens, Dieu donne des dons spirituels pour servir. Mais il donne aussi, dans l'Église, des ministères dons, comme on appelle, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont données à l'Église pour l'avancement du royaume. Et donc, je vais juste m'arrêter ici sur ce verset, mais pour attirer l'attention sur quelque chose. Éphésiens 4, 11 à 13, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. En d'autres termes, les ministères que Dieu donne à l'Église ne sont pas des ministères qui sont là pour faire le travail, mais ils sont là pour former les saints aux tâches du service. Ah ah ! Donc en d'autres termes, le travail des gens qui enseignent, le travail des gens qui sont pasteurs dans l'Église, le travail des gens qui sont anciens dans l'Église, c'est pas forcément de faire eux-mêmes le ministère, mais c'est de former les autres pour que chacun fasse son travail. Ce que tu as reçu de moi, transmets-le à des hommes fidèles qui seront capables de le transmettre à d'autres. D'accord ? Donc c'est un travail dans lequel on aide chacun à prendre sa place, former les saints pour le service. Et donc, c'est un rôle important. Voilà, je vais en finir là pour aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse chacun, les uns et les autres, qu'il nous aide à porter du fruit comme communauté, et qu'il nous aide surtout à ce que les choses que nous lisons dans la Bible, les choses que nous voyons dans la Bible, ne restent pas sans conséquences pour notre Église, mais que réellement ça puisse tous nous aider à prendre notre place, et que ça puisse aider notre Église, d'un point de vue général, à jouer son rôle dans la société, à annoncer Jésus-Christ, à former des disciples. Que Dieu nous aide à ce que tout ce que nous voyons nous aide concrètement à avancer. Amen.